Bonjour Yann Crespel.
Bonjour Patrice.
Vous êtes le capitaine de l'association Dans le même bateau. Une invitation à se fédérer, à faire société dans un monde de plus en plus imprévisible. Et c'est aussi que vous lancez actuellement une campagne pour le financement d'un jeu coopératif. Mais avant de parler de ces abernumes, hein, comme ils sont intitulés, nous allons tout d'abord procéder peut-être à une présentation de l'association, son objectif. Et depuis quand vogue-t-elle ?
L'association Dans le même bateau existe déjà depuis un moment. Depuis 2012, on fait des choses là-haut, entre marins qui naviguent d'un enthousiasme à un autre, toujours avec la même idée de fond qui était de donner du sens aux alternatives par rapport à ce monde dans lequel il y a beaucoup plus de frayeur, de crainte. Et donc on essaye d'éveiller les enthousiasmes par des navigations qui sont toutes les plus intéressantes les unes que les autres, et depuis un moment. En 2022, nous nous sommes reconstitués un équipage et avons décidé d'engager l'association dans un nouveau mouvement. On était après le Covid, on avait expérimenté plein de choses, dont ces premières rencontres des amers numériques. Un amer est un point de repère pour se repérer à l'ère numérique. Et du coup, avec les quelques copains artistes numériques qui cherchaient une caution écologique, puisque le lieu là-haut n'est pas connecté. Donc, dans le paradoxe, ils étaient très heureux de retrouver de quoi donner complet corps à leurs enthousiasmes. Et ces amernumes ont eu plusieurs saisons dans une forme bricolée de barcamp, donc de réunions entre nous, sans être très ouvert à l'extérieur. Et donc en 2022, on s'est dit que l'association devait se recréer une ambition, une ouverture, et proposer un peu plus largement que dans les quelques réseaux qui circulaient autour de nous.
Alors quand vous dites là-haut, de quoi s'agit-il exactement ? Ben en fait, planter le décor.
La particularité de l'association, qui avant d'exister là, existait ailleurs, mais c'est de s'être ancré dans ce lieu qui est la mer, qui est un lieu à 1000 mètres d'altitude sur le plateau de Presles, donc sur les hauteurs de Pont-en-Royans, qui a la particularité d'être autonome, autonome en énergie, autonome en eau, autonome en bois, autonome en tout. Et du coup, de cette autonomie et puis de son écartement, puisque c'est un site isolé, naît quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience sensible particulière. Donc on n'a pas de voisins à moins d'un kilomètre et demi, donc quand on entre là, on rencontre à la fois les humains qui y habitent, mais aussi beaucoup du non-humain qui nous accueillent, parce que c'est un peu eux qui habitent là et nous qui avons la chance de pouvoir partager leur quotidien.
Alors ça a été l'objet de jeux de rôle à grandeur nature hein, sur ce secteur depuis quelques années. Il y a déjà quelques expériences à la clé.
C'est ça, il y a eu quelques expériences 2016-2017 jusqu'en 2020 qui étaient déjà des rencontres amernumes, au départ sans mécanique de jeu, qui étaient simplement des installations avec des artistes de grand talent, je pense à Ezra, Pierre Amoudru, Sénocosme, qui étaient venus et qui avaient mis en place des installations autour d'un récit que l'on se faisait nous-mêmes, un peu à la manière du Dune de Frank Herbert, mais en se disant qu'on pouvait interpréter les éléments du feu, de l'air, de la terre, de l'eau. Et dans cette transformation que nous vivions individuellement, réinvestir cette alchimie. Et ces rencontres, nous avons décidé en 2022 d'en amplifier le sens, d'en clarifier aussi le propos, et de permettre par une mécanique de jeu à des collectifs, des groupes, on appelle ça des compagnies aujourd'hui, de venir vivre une expérience unique qui permet de se poser les bonnes questions dans ce moment de l'Anthropocène, qui est le moment numérique, dans lequel il est très difficile de penser le monde.
Avec des éléments fondamentaux ?
Ouais, ben les éléments, on a gardé l'entrée par le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont les quatre éléments, et donc on entre dans un cycle de cinq saisons. Donc une saison va commencer à l'été 2026, si tout se passe bien.
Oui.
En 2027, 2028, 2029, et on traversera d'abord l'élément eau, puis l'élément vent, puis terre, puis feu, puis les quatre éléments ensemble, tout ça à travers un récit écologique un peu à la Miyazaki, sur lequel on est quelques-uns à travailler, qui est un grand, grand plaisir, une vraie joie, pour que tous les participants de 10 à 80 ans, pour peu qu'ils puissent venir arpenter les chemins, viennent s'amuser avec nous, mais s'amuser sérieusement.
Pour en avoir une idée d'ailleurs, on peut facilement renvoyer l'auditeur sur votre site où on peut retrouver une vidéo qui est très explicite et très belle hein, par tout ce qui a été déjà envisagé puis réalisé par ce collectif.
Sur le site, je crois qu'il doit y avoir une vidéo en drone aussi qui permet de regarder le lieu, puisque la particularité de l'association, c'est d'avoir pour scène 150 hectares d'une belle forêt, donc privilégiée hein, comme scène, sensible aussi, et donc tous les équilibres sont aussi une de nos recherches. Et une vidéo ou des images, parce qu'il n'y a pas seulement la vidéo qui donne à voir ce qu'ont été les expériences précédentes. Ce jeu grandeur nature, en Vercors, est original. Il est original parce qu'il est accueilli dans le lieu qui est la mer et cette belle combe de 150 hectares dont je parlais. Mais il est aussi original parce que on a l'ambition d'avoir un jeu de plateau, donc qui est un jeu qu'on pourra jouer à la maison, en famille ou entre amis, entre deux et cinq joueurs, ça marche, et de le décliner physiquement dans le réel. Donc l'idée, c'est de, à la fois pour ceux qui viendront vivre le jeu de rôle grandeur nature dans la forêt, et ceux qui joueront à la maison, d'avoir des liens permanents, et donc ceux qui viennent redescendre, ceux qui descendent montent, pour qu'on ait toujours la possibilité d'accéder aux deux univers, ou à l'univers ici et en bas. Le jeu, je prends un petit peu le temps de l'expliquer, donc ce jeu des Amernumes a pour but d'explorer la combe pour trouver l'antre de Morphose. C'est ainsi que nous avons nommé la créature folle de l'eau que le numérique a complètement déboussolé et qui risque de détruire les compagnies qui s'aventurent dans la forêt. Le premier risque, c'est que Morphose les détruise. Le deuxième, c'est que le brouillard numérique, qui est ce que l'on a dans l'infobésité, dans l'incapacité avec cette post-vérité à trouver notre chemin, dans tout ce que sont ces dérives numériques, l'accélération, la survitesse, la submersion ou la mémoire qui s'en va parce qu'on la délègue à toutes ces entités data. Voilà. En tout cas, ce brouillard numérique est le deuxième risque que prennent les joueurs, de se faire submerger jusqu'à ne plus pouvoir retrouver leur chemin. Et donc le jeu de plateau invite, tuile après tuile, à explorer la combe collectivement avec cinq rôles distincts, un rôle de scribe, un rôle d'écologue, un rôle de chaman, un rôle de soigneur et un rôle de cartographe. Et donc ces cinq rôles, on peut les occuper en tant qu'individu ou à plusieurs individus, de 2 à 5 ça marche, et ils interagissent entre eux pour pouvoir rencontrer un certain nombre d'épreuves. Ces épreuves, ce sont les habitants fantastiques de la forêt qui peuvent à la fois leur apporter des choses très positives, faire descendre le niveau de brouillard qui, s'il atteint 10, tue tout le monde, donc essayer de le redescendre petit à petit, mais aussi d'avoir des démons de Morphose, ces caporales, ou je ne sais pas comment ils vont les appeler à terme, en tout cas nos concepteurs, mais des risques pris qu'il va falloir réussir à déjouer. Et voilà, donc, ce faisant, la compagnie ouvre les tuiles les unes après les autres et doit, dans une mécanique de jeu qui est assez simple, à la fois explorer potentiellement, révéler un talent, aller relever des cartes pour qu'on vous donne des choses à faire, vous les faites. Et donc ce jeu tourne de manière collaborative. Il n'y a pas d'opposition des joueurs les uns contre les autres. C'est tous ensemble que nous devons lutter contre ce danger de Morphose et le danger du brouillard numérique qui nous submerge.
Comment se caractérise ce brouillard numérique ?
En fait, si on prend l'idée de gouttelette, je ne sais pas. Je prends par exemple la question de l'information. Donc l'eau est un endroit où on peut voir se traverser de l'information. C'est compliqué aujourd'hui d'accéder à une information qui soit suffisamment compréhensible. Et donc, on appelle ça l'infobésité, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment une surenchère de choses qui nous arrivent et qu'il est très difficile de trier. Donc, un des objectifs, c'est de réussir à trier. Le brouillard numérique, il aurait beaucoup, beaucoup plus de petites briques que voilà. On pourrait toutes décrire les unes après les autres. Mais si on s'intéresse à simplement le rapport que l'on a aux médias ou le rapport que l'on a à l'utilisation de nos téléphones portables, toujours la tête baissée, la manière dont les écrans ont pris toute la place. Mmh. En fait, on essaye non pas d'avoir une position pour ou contre, mais de contribuer par ce jeu à en analyser un certain nombre de choses et à permettre à ce que chacun se dise, tiens, ça je prends, ça je ne prends pas. Donc on n'aura pas de position pour dire on enlève le téléphone et vous allez pieds nus dans la forêt. C'était pas l'enjeu, pas du tout, aucun dogmatisme, mais l'idée de poser des questions par le jeu de quel usage nous faisons de ce moment numérique et comment on peut essayer de le choisir plutôt que de le subir, ne pas évoluer en monde contraint, conscientiser les manipulations des grosses industries qui tous les jours détournent nos pulsions, nos désirs, refaire du lien social quand les liens sont détruits par les réseaux sociaux, supposément sociaux, et dans les faits autrement plus destructeurs de nos relations. Et du coup, c'est bien tous ces enjeux-là qui vont, dans le brouillard numérique, apparaître de manière subreptice. C'est un brouillard, donc on en mesure aussi l'espèce d'invisibilité. Donc petit à petit, ce brouillard-là peut monter, petit à petit il peut nous détruire, et le jeu invite à en détourer les problématiques pour éviter qu'une trop forte densité nous détruise. Les récits portera un certain nombre de choses explicatives de ces différentes gouttelettes du brouillard ou briques du brouillard, mais c'est aussi, je trouve, le mot de connexion vient peut-être éclairer cette intention que nous avons. C'est se reconnecter, mais pas se connecter avec les données et laisser tous ces data centers aller réchauffer l'eau, nous prendre tous les milliards de dollars, d'euros qui traînent pour essayer... tout ça, on souhaite poser juste un propos pour qu'on se reconnecte à autre chose que la donnée, plutôt à l'expérience sensible en milieu de nature. Et donc on invite les joueurs à revenir à une dimension environnementale, écologique, de la connexion. La connexion à ce qui vit, à ce qui vibre, à ce qui est tous les jours nécessaire pour qu'on continue à être humain ensemble. J'ai fait une expérience de jeu avec les concepteurs, je vais les nommer, puisque Thomas Van Veck, qui conçoit ce jeu depuis le début avec nous, est le concepteur du jeu d'après le livre d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Donc ce jeu sur lequel travaillent les éditions La Volte devrait paraître l'année prochaine. Et avant ça, il a accepté de venir travailler avec nous. On est vraiment très contents et on le remercie. Et donc ce jeu-là n'est pour l'instant qu'à l'état de prototype. On en a les premières tuiles avec ce round 1, round 2, round 3 qui à chaque fois nous permettent de rencontrer Morphose et ses démons et de faire monter ou non le brouillard numérique. Donc les compagnies, avec ces cinq personnages dont je parlais, ont à traverser toutes ces épreuves. Ce jeu de plateau, il a aussi la déclinaison image, il est illustré. Et donc je cite aussi un illustrateur qui a accepté, malgré le fait que nous n'ayons pas eu les financements qu'on voulait, de travailler à nos côtés, qui est Pablo Vasquez, qui habite à Presles, sur le plateau, et qui, lui, a fait de merveilleux dessins, un peu d'inspiration solarpunk ou heroic fantasy solarpunk. Et donc, nos personnages, maintenant, existent physiquement, et les tuiles ont chacune leur dessin. Donc, la combe, dans le réel, c'est une forêt qui monte et qui descend sur 150 mètres de dénivelé. Dans le réel, c'est une trentaine de tuiles, je crois, qu'il va falloir retourner jusqu'à trouver l'antre de cette créature affolée de l'eau. En fait, il y a un gros enjeu pour nous en cette fin d'année. On sait que tout le monde est sur l'idée des cadeaux, de se retrouver en famille pour Noël. Pour l'association Dans le Même Bateau, si l'on souhaite respecter notre agenda qui emmènerait une saison du jeu de rôle Grandeur Nature à l'été 2026, donc commencer le 21 juin, finir en septembre, alors il faut qu'on réussisse à ce qu'on convainque des financeurs publics, mais c'est très compliqué actuellement d'aller chercher de l'argent public. Du coup, on se dit d'abord et avant tout nos énergies, nos moyens, pour se donner la possibilité que ça existe. Et donc, on a demandé à ce que le jeu puisse être accéléré. Les concepteurs ont accepté de travailler malgré des financements plus que réduits. Et on est arrivé à avoir ce prototype, de le bêta-tester. Donc on va voir si la mécanique tient, s'il y a des endroits où une tuile n'est pas assez claire, on la précise, si les personnages, quand ils se déplacent, ont les bonnes qualités et compétences, si quand on active tel ou tel sortilège et qu'on fait monter le brouillard, c'est juste ou non, si le rythme du jeu est agréable pour les joueurs ou s'il doit être aménagé. Et je pense qu'on sera encore dans cette logique de bêta-tester jusque juin, ou peut-être jusque avril plutôt, parce que comme ça, on aura un jeu qui pourra être déployé, mis en boîte.
Vous êtes vous-même un joueur de plateau invétéré pour imaginer un jeu. C'est pas rien d'imaginer un jeu de plateau, un jeu de société, entre guillemets.
Bah, moi, je vous avoue que non. Moi, jouer n'est pas une pratique quotidienne. Moi, je préfère lire, écrire. Je suis auteur, diplômé en éco-poétique. Donc, j'essaye de donner corps à un récit. Et pour que ce récit soit porté par autant de canaux possibles, le jeu est un support qui, en plus que de porter de bonnes questions, amène un vrai plaisir à faire les choses ensemble. Mais en gros, les amernumes aujourd'hui ont dans leur triple intention celle d'aider à discerner dans ce moment technique ou technologique dans lequel nous sommes. Un enjeu deuxième qui était l'écologie, donc se poser la question de ce virage écologique et de réussir à faire évoluer nos manières de nous comporter. Puis un troisième grand enjeu qui est de le faire à plusieurs, ensemble, en faisant société. Et donc c'est ces trois enjeux-là que moi j'essaye de rentrer dans un récit à caractère fantastique et que les concepteurs du jeu, Pablo, Thomas, réussissent à installer pour que ce jeu de plateau soit le plus fonctionnel possible. Mais vraiment, c'est leurs compétences à eux qui font que ce jeu fonctionne. Moi, je n'ai que les intentions.
Alors, une campagne a été lancée assez récemment pour financer ce jeu coopératif. Alors, pour découvrir un petit peu les éléments dont vous venez de nous parler, puis l'aspect financier, comment retrouve-t-on cette présentation de la campagne ?
On a essayé depuis un an et demi de récupérer de l'argent de financeurs publics que nous n'avons pas pu avoir, si ce n'est à travers le département et la CAF de l'Isère. Une possibilité d'être soutenu à minima en 2025, ça nous a permis de faire des choses, comme je disais, de les déclencher, mais ça ne couvre absolument pas les besoins pour que en 2026 on ouvre la saison depuis la forêt, depuis la mer, à 1000 mètres d'altitude sur le plateau de Presles, et ça ne couvre pas les besoins pour que l'ensemble de l'écosystème partenarial et des personnes qui sont concernées par le projet se mobilisent. Et du coup, ce jeu est un support pour prendre conscience de la qualité des questionnements, mais aussi de l'importance que pourrait revêtir un événement un peu original comme les amernumes l'été prochain. Et donc on a eu à prendre des décisions, et ces décisions, c'est de réussir à mobiliser les moyens, chercher les moyens entre maintenant et après Noël, parce que sinon il sera trop tard pour qu'en 2026 on tienne notre agenda. Cette campagne de financement collaboratif, C'est maintenant qu'il faut que nous réussissions à récupérer les 15 ou 20 000 euros qui nous permettront d'aller au bout en 2026, avec des contreparties très belles. En plus, c'est des chouettes cadeaux de Noël que de venir chercher un week-end au gîte de la mer. Je crois que c'est une des contreparties, par exemple, à venir en famille, ou même d'être chez soi, recevoir un jeu de plateau pour pouvoir le bêta-tester en famille tranquillement avec une hotline privée ou des cartes postales, des beaux paysages qu'il y a de là-haut. Il y a un certain nombre de contreparties qui feraient de très beaux cadeaux de Noël pour ceux qui veulent et qui en plus permettraient de donner corps, donner vie à ce jeu d'ici l'été prochain.
Alors pour se connecter justement à l'initiative, c'est par le site de l'amernume finalement qu'on y est, dans le même bateau ?
Dans le même bateau, vous trouvez de l'information, mais on est passé par la plateforme Eloasso.
Oui.
Donc Eloasso, amernume ou dans le même bateau, je pense que ça permet d'accéder directement à la campagne. Je crois que c'est très très simple, je pense que l'ayant fait hier, oui, dans le même bateau, à un certain nombre d'activités déjà recensées auprès d'Eloasso, qui reste une plateforme passionnante pour déployer ce genre d'initiative financement collaboratif. Parce que tu vois, il y a tellement de brouillage, perte, servitude, technopouvoir, asymétrie, distance, délitement, déréalisation, domination, manipulation, captation, désinformation, vulnérabilité. Meurt annoncé par la data. Dilution dans le grand monde, trône,